Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, 172 sièges à renouveler au Sénat. Le scrutin se déroulait aujourd'hui pour les grands électeurs. Nous serons en direct du Palais du Luxembourg pour les tout premiers résultats. La fermeture des bars et restaurants bientôt en vigueur dans la métropole d'Aix-Marseille. Nouvelles mesures sanitaires qui font débat. Les uns les trouvant trop drastiques, les autres pas assez. Pour Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, la santé des Français prime sur l'aspect économique. Vous l'entendrez. Va-t-on vers une guerre ? En Azerbaïdjan, un conflit armé est en cours dans la région séparatiste arménienne du Nagorno-Karabakh et l'escalade de violence inquiète la communauté internationale. Et puis Julien Alaphilippe en arc-en-ciel, 23 ans qu'un Français n'avait pas réalisé un tel exploit. Il a été sacré aujourd'hui champion du monde de cyclisme. On y revient en fin de journal.
France Inter.
Le scrutin des élections sénatoriales est clos depuis une demi-heure. Les grands électeurs ont voté pour élire 172 sénateurs. A priori, pas de bouleversement de l'équilibre politique à prévoir. La Chambre haute est dominée par la droite depuis 2014. Une percée verte est possible malgré tout. Élodie Forêt, on a déjà des résultats, ceux des sénateurs élus au premier tour.
Oui, et dans cette première poignée de résultats, on peut déjà noter la réélection de quelques personnalités de la Chambre haute. Claude Maluret dans l'Allier a près de 64% des voix. Le président du groupe Les Indépendants, assez peu connu du grand public, mais incontournable ici au Sénat, célèbre pour ses discours piquants. Réélection aussi du LR Alain Joyandet en Haute-Saône. Ça c'est donc pour les sénateurs, vous l'avez dit, élus au premier tour. On attend maintenant les résultats des seconds tours et des scrutins à la proportionnelle. On surveille particulièrement ce soir, l'Eure et Lyon, où deux ministres sont en lice, Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Lemoyne. Gros enjeu aussi en Côte d'Or, où François Patriat, président du groupe Marcheur, est menacé. Son éviction serait très symbolique d'une débâcle annoncée. Enjeu aussi dans les Bouches-du-Rhône, où le seul sénateur RN, Stéphane Ravier, remet son siège en jeu.
Élodie Forêt en direct du Palais du Luxembourg à Paris. Merci Élodie. Plus que quelques heures pour profiter des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille. Ils fermeront pendant deux semaines pour limiter la progression de l'épidémie de coronavirus. De nouvelles mesures sanitaires qui ont fait grincer des dents localement. Un délai de 24 heures a même été accordé pour les mettre en place. Écoutez à ce sujet la réaction de Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche.
J'étais assez choqué hier, j'entendais l'adjoint au maire de Marseille qui disait « Au fond, aujourd'hui, il faudrait mieux réouvrir des places de réanimation que de fermer les restaurants ». Mais pardon, quand on suit ce raisonnement-là, c'est terrible. Ça veut dire que, de façon assumée, on dit « Oui, il vaut mieux garder les restaurants ouverts et envoyer des gens en réanimation ». C'est l'opposé de ce que nous avons fait depuis le début de cette crise. Et je suis très inquiet quand je vois qu'il y avait une union nationale qui s'était faite sur le principe qu'avait posé le président de la République, quoi qu'il en coûte. Je me rappelle d'un slogan de campagne, ce n'était pas le mien. Il était dit « Nos vies valent plus que leurs profits ». En l'occurrence, pendant cette crise, c'est le choix que nous avons fait. Nous qui sommes parfois taxés de libéralisme ou même d'ultralibéralisme, on a fait le choix d'arrêter l'économie pour sauver des vies. Et on continue à faire ce choix-là. Donc oui, je suis choqué par ceux qui remettent en cause ce principe-là.
Stanislas Guérini était l'invité d'Ali Badou dans Questions politiques. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a écarté la possibilité d'un reconfinement national préventif avant Noël. L'enquête sur l'attaque au hachoir près des anciens locaux de Charlie Hebdo, la garde à vue de l'auteur présumé a été prolongée de 48 heures. Ce Pakistanais de 18 ans a reconnu qu'il visait le journal satirique. Une autre personne a été placée en garde à vue aujourd'hui. Cela porte à 9 le nombre total de personnes arrêtées dans cette affaire. La garde à vue du petit frère de l'assaillant présumé et celle d'une personne de son entourage amical ont également été prolongées de 24 heures. France Inter, il est 18h04. L'Azerbaïdjan déclare la loi martiale et instaure un couvre-feu à Bakou, la capitale, et dans d'autres villes. La tension est montée d'un cran aujourd'hui entre l'État et les séparatistes arméniens de la région du Nagorno-Karabakh. 16 soldats séparatistes ont été tués dans les combats, selon l'Azerbaïdjan, qui aurait perdu des drones et des chars, selon les séparatistes. La France, l'Union européenne et la Russie appellent à cesser les hostilités. L'Arménie soutient les séparatistes, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Les deux anciennes républiques soviétiques, Arménie et Azerbaïdjan, s'opposent depuis des décennies au sujet de cette région du Haut-Karabakh. Explication de Jean-François Pérouse, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes.
un conflit gelé, hein, mais qui est réactivé dans un contexte bien précis, là, hein, qui est celui de la complexe relation de la Turquie à la Fédération de Russie, d'une part, et de la complexe relation de la Turquie à son environnement régional. Hein, une Turquie qui conseille l'armée azerbaïdjanaise, qui équipe l'armée azerbaïdjanaise. Ça rappelle un petit peu ce qui se passe en Syrie. Hein, le jeu russe, hein, est très ambivalent. On a quand même, hein, un certain nombre d'organisations internationales qui suivent depuis près de 30 ans. Donc, ni la Russie, ni finalement la Turquie, hein, n'ont intérêt à ce que ça dégénère. Ce qu'on peut regretter, c'est évidemment, c'est sur place, hein, c'est les peuples azerbaïdjanais et arméniens qui payent le prix, hein, de ce grand jeu, hein, régional et international. Donc, on peut imaginer encore des dérapages, hein, mais pas un grand dérapage, sachant que les grands joueurs, hein, qui influent sur ce théâtre d'opération savent que les choses ne doivent pas dégénérer totalement.
Des propos recueillis par Nabila Hamel de France Culture. En Biélorussie, environ 200 personnes ont été arrêtées ce soir lors de rassemblements d'opposition. Il y en a chaque dimanche à Minsk depuis le 9 août dernier, date de la réélection du président Alexandre Loukachenko. Dans une interview au JDD, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien aux opposants. Le chef de l'État prépare une visite de 3 jours en Lituanie et en Lettonie dès demain, 2 États baltes voisins de la Biélorussie. Emmanuel Macron qui doit aussi s'exprimer ce soir sur un autre sujet international, le Liban, alors que le Premier ministre démissionne faute de pouvoir nommer un nouveau gouvernement. 23 ans qu'on n'avait pas vu ça. Un Français champion du monde de cyclisme, c'était à Imola en Italie. Après 258 km de course, Julian Alaphilippe s'est échappé en solitaire à 12 km de l'arrivée. Il remporte ainsi le maillot arc-en-ciel. On revient sur cet exploit avec vous, Fanny Lechevestrier.
Oui, et quelle victoire, hein, Julian Alaphilippe en larmes, pris par l'émotion sur le podium de ces mondiaux, alors que la Marseillaise résonnait sur le circuit d'Imola. C'est l'image dont on ne se lasse pas ce soir et qui restera, c'est certain, comme l'un des moments forts de la saison, voire durant de longues années au sein de l'équipe de France. Cela faisait tellement longtemps que les Bleus couraient après ce maillot arc-en-ciel. Il y a 2 ans, ils avaient été à 2 doigts de tutoyer les étoiles avec la 2e place de Romain Bardet. Quant à Alaphilippe, il ne s'en cachait pas. Ce maillot, ce titre, c'était le rêve de toute une carrière. Le voilà donc exaucé désormais à 28 ans et pour sa 5e tentative. Un rêve décroché avec la manière, en plus avec panache, une attaque placée dans l'ultime montée de la Cima Galisterna et devant un podium splendide avec Wood Van Aert 2e et Mark Hirschi 3e. Difficile de faire mieux que de décrocher ce titre mondial alors que beaucoup commençaient à douter de sa forme cette année.
Merci Fanny Lechevestrier. À Roland-Garros, les matchs en cours aujourd'hui. Le tournoi de tennis a démarré aujourd'hui. Le Britannique Andy Murray affronte en ce moment le Suisse Stan Wawrinka. Pour l'instant, c'est le Suisse qui mène face au Britannique. L'Allemand Alexander Zverev est face à l'Autrichien Denis Novak. Benoît Paire joue face au Sud-Coréen Sun Woo. Il mène pour l'instant 1-7-0. La numéro 2 mondiale, Simona Halep, c'est qualifiée tout à l'heure en venant à bout de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo en 2-7. Même chose pour la Française Caroline Garcia, victorieuse en 3-7 tout à l'heure de l'Estonienne Annette Kontaveit. Un mot de football avec la suite de la 5e journée de Ligue 1. Lyon-Lorient est en cours, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et puis en clôture de cette journée, Reims recevra le PSG. Ce sera à 21h. Tout de suite la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Tous les détails sur votre ciel de demain avec vous, Jean-Michel Golinski.
Ce lundi, le bassin méditerranéen va retrouver un temps franchement ensoleillé, en grande partie grâce au Mistral et à la Tramontane assez turbulent. Par contre, le parapluie va servir sur les régions de l'Est, en particulier entre le Grand Est, les Alpes et le Massif Central. Tandis que plus à l'ouest, l'ambiance sera généralement sèche, mais loin d'être toute bleue, avec au milieu des trouées plus ou moins larges, mais avec déjà l'arrivée en seconde partie de journée d'un temps plus maussade par l'ouest de la Bretagne. Les températures maximales ne vont pas dépasser 12 à 14 degrés sous les pluies de l'est. Le maximum sera de 20 à 23 autour de la Méditerranée et de 17 à 20 sur les autres régions.